6 étapes pour choisir un métier quand on est multipotentiel. Donc voilà la présentation qu'on va vous faire ce soir. Ce sont des étapes qu'on a nous-mêmes expérimentées déjà, un peu expérimentées, on va dire, de briques et de broc, chacun de notre côté, et puis qu'on a peaufiné au fur et à mesure du temps. Je pense qu'on va passer directement à la présentation, comme ça ce sera le plus simple. Donc, qui sommes-nous? Probablement que vous avez déjà peut-être vu ou entendu parler de nous. On va vous présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Lauriane. En face, vous avez Julien. Et on fait tous les deux partie de Cameo. Donc Cameo, c'est une plateforme, c'est un site internet, ce sont des événements, c'est une entreprise qui est dédiée aux multipotentiels pour aider les multipotentiels à vivre pleinement justement leur multipotentialité. De mon côté, je me suis découverte multipotentielle, je ne sais même plus quand, j'avoue, je pense que c'était en 2019, peut-être quelque chose comme ça. J'avais des suspicions depuis un moment, mais la vie, les aventures et les errances de la vie font qu'au bout d'un moment, on se pose la question de pourquoi on ne fonctionne pas comme les autres. Et on a envie d'explorer, de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Et c'est comme ça, dans mes errances, que j'ai fini par rencontrer Julien et Cameo et à intégrer l'équipe depuis 2 ans maintenant.
Oui, c'est ça, deux ans.
Pleinement. Et je me retrouve à participer ce soir avec cette présentation. Julien, je te laisse te présenter,
oui.
Toi.
Oui, je vais le faire rapidement. Alors, Cameo, c'est un projet que j'ai cofondé il y a un moment quand même. Je crois qu'on a démarré en 2017. Pour la petite histoire, en fait, c'est venu à un moment où j'enchaînais finalement les déceptions professionnelles parce que je errais de métier en métier à me demander et finalement à me dire que je n'étais pas fait pour le monde du travail et que je devais me contenter d'un métier finalement juste dans lequel j'allais pouvoir avoir un salaire, mais dans lequel je ne m'épanouirais pas forcément. Et je devrais m'épanouir finalement dans mes hobbies, dans mes activités à côté. Et puis, j'ai découvert le terme multipotentiel en visionnant le TEDx d'Emily Wapnick, que vous connaissez peut-être sans doute, hein, qui a été vu plusieurs millions de fois, la Canadienne Emily Wapnick, qui a vraiment mis des mots finalement sur un vécu de peut-être 20 ans, dans lequel je me sentais complètement hors case, quoi. Complètement, enfin, je ne sais même pas finalement comment m'orienter et comment choisir. Je commençais à être vraiment complètement perdu et finalement, elle a mis des mots sur un ressenti. Et avec Stéphanie, avec qui on a démarré Cameo, on a voulu créer du contenu, créer des ressources pour pouvoir aider des personnes qui, comme nous, se retrouvaient dans ce profil multipotentiel. Voilà. Donc, et depuis 2017, Cameo, c'est des podcasts, des vidéos, des articles, une communauté, des événements, un e-book, enfin énormément de choses, un accompagnement, voilà. Donc voilà, un beau projet qui réunit aujourd'hui une belle petite équipe de 5 personnes et puis pas mal d'intervenants, je dirais une dizaine d'intervenants qui vont faire des formations, des coachings et autres. Voilà. Voilà pour la petite histoire. On enchaîne.
On enchaîne, je vais prendre le relais. Donc j'avais envie de... Enfin, pour nous, c'était très important de commencer ça, cette présentation, en parlant des multipotentiels et de la réorientation professionnelle. Parce que dans ma tête, il y a un truc qui est absolument évident, c'est que nous sommes des professionnels de la réorientation. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez comme multipotentiel, vous avez probablement déjà changé 1 milliard de fois d'activité, d'idées, d'études, de diplômes, de tout ce que vous voulez. Donc, il y a déjà... Enfin, on a tous une capacité et des compétences dans la réorientation professionnelle qui existent, je pense, à part chez les conseillers d'orientation. Il n'y a pas. Je me souviens d'ailleurs d'un conseiller d'orientation qui m'avait dit que je devrais être conseiller d'orientation tellement je m'intéressais à tout. Bon, c'était très sympa de sa part et j'étais très flattée, mais effectivement, ça ne me faisait pas vibrer plus que ça. Mais on est des professionnels parce qu'on a été confrontés à ça toute notre vie, entre changer d'études, changer de parcours, changer de boulot parce qu'on teste, parce qu'on voit, parce qu'on prend des projets qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier à la base, etc. Enfin bref. Changer de métier, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, par contre, c'est comprendre comment on fait pour changer de métier. Ce qu'on a du mal à faire, c'est savoir qu'est-ce qui nous plaît. Parce qu'on a tellement changé de foi dans tellement de choses différentes qu'on ne sait même plus quel est le point commun entre ces différents éléments. Et donc, on ne sait plus à quoi se fier pour choisir un métier. C'est pas pour rien si la plupart des gens qui nous rejoignent chez Cameo, etc., ont plus de 30 ans, voire arrivent dans la quarantaine. C'est parce que ce qui, au début de notre vie d'étudiant et de notre vie professionnelle, est quelque chose d'hyper enthousiasmant, on va tester un nouveau projet, tester un nouveau boulot, changer de boîte, etc. C'est super fun, c'est super drôle, sauf qu'au bout d'un moment, on bloque en fait. On arrive à un blocage, on arrive à un mur et on est confronté à l'envie de construire des choses, à l'envie de bâtir sur ce qu'on a déjà fait, à l'envie de comprendre qui on est tout simplement. Et comme le disait Julien, à l'envie de se dire, mais est-ce que je suis faite ou faite pour travailler en fait, parce qu'on s'épuise à faire des choses, on met beaucoup d'espoir dans chaque nouveau projet, et puis chaque espoir nous nourrit un certain temps, et puis on se lasse, et on finit par se demander si on est comme les autres, et on finit par se fatiguer, etc., etc., et par avoir des stratégies qui ne fonctionnent plus. Donc du coup, je pense que là, dans le webinaire, on a tous testé ça. En tout cas, moi, je suis coupable d'avoir testé chacune de ces choses-là. donc je pense qu'on va pouvoir se retrouver. Mais comme je vous l'ai dit, on a tous testé le fait de passer d'un job à l'autre parce que quelqu'un nous avait parlé d'un truc, parce que, tiens, la fiche de poste a l'air intéressante, tiens, parce que, en fait, bah, j'aime cuisiner, pourquoi pas aller faire cuistot. Ah ouais, mais en fait, du coup, j'aime bien enseigner, donc tiens, je vais aller faire enseignant ou formateur, ou etc. Et on va sauter comme ça, de job en job, par des opportunités qui se présentent, de gens qu'on rencontre, etc. Et on va pouvoir tester comme ça plein, plein de choses au début. Sauf qu'au bout d'un moment, comme j'ai dit, on se lasse. Du coup, on va essayer en tout cas, parce que ça a été tout le temps là dans l'arrière-plan, on va essayer de demander des conseils aux autres. Quand on est en entreprise, on se sent bien, on se dit tiens, mais là, le poste, ça va plus, alors on va demander conseil à ses managers, on va en discuter avec sa famille. Avant ça, on en avait discuté avec ses enseignants, qui tous vont nous donner plein de conseils pour arriver, la plupart du temps très bienveillants, je parle même pas de gens toxiques, hein, mais je parle de gens très très bienveillants qui vont essayer de nous dire, bah oui, mais il faut que tu te trouves un projet, et puis il faut que tu te projettes sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis ouais, qu'est-ce que tu voudrais faire? Des questions qui, pour nous, sont, enfin, en tout cas, pour moi, quand on me les posait, c'était juste la panique. La panique complète parce que je me sentais incapable d'y répondre. Pour moi, il fallait que je change de métier tous les 6 mois pour être intéressante, enfin, pour que la vie soit intéressante, en fait. Il fallait que ça change tout le temps pour garder un peu de piment. Donc, me projeter sur 5 ans dans une entreprise, dans un poste, impossible. Vraiment impossible. Du coup, après, ben, on essaye de faire appel à des professionnels, que ce soit des coachs, on s'intéresse un peu au développement personnel. C'est comme ça qu'on tombe sur des TEDx, c'est comme ça qu'on tombe sur des livres, sur des méthodes comme Ikigai, etc. Donc, on va essayer de mieux comprendre comment on fonctionne et tout ça, mais il manque des fois des petits bouts. Et puis, on va essayer des bilans de compétences, mais pareil, les bilans de compétences, je ne sais pas si vous en avez fait, mais les compétences, bah, comme je dis, on est des professionnels de la réorientation professionnelle. Ces compétences, on les connaît très, très bien. Le problème, ce n'est pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et cette question-là, le bilan de compétences, ne nous aide pas du tout à y répondre. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que. C'est par ça, en fait, on est que ce soit Julien ou moi. Julien, tu n'hésites pas à m'interrompre si tu veux ajouter des choses. Mais que ce soit Julien, que ce soit moi, on est tous les deux et beaucoup de membres dans l'équipe et dans les personnes, les intervenants qu'on a autour de nous au sein de Cameo et même tous les gens de la communauté. On est tous passés par ça, on a tous essayé ça et on s'est tous, comment dire, on s'est tous retrouvés bloqués face à la limitation de chaque option. C'est-à-dire que chaque option, on essayait de prendre qu'un petit bout, d'adresser une petite facette, mais n'avait jamais ce côté global dont on a besoin. Et c'est pour ça que au sein de Cameo, c'était en 2019, Julien, si je ne me trompe pas, ou 2020, qu'on a,
19.
du coup, 2019, qu'on a essayé de mettre bah, tout ce qu'on avait appris sur ces choses-là, sur la réorientation professionnelle, toutes nos errances, en se disant qu'il fallait créer une méthode adaptée au multipotentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une méthode en 6 étapes, en essayant de se dire, OK, à quelle. Cette méthode est très simple, elle part d'un principe extrêmement simple, c'est à quelle question il faut qu'on sache répondre pour trouver ce qu'on veut faire. Quels sont les éléments qu'on doit connaître sur nous pour arriver à retrouver notre compas qui nous permet de savoir un petit peu bah, notre boussole interne, ce qu'on appelle notre boussole interne, c'est-à-dire comment je fais pour savoir si une opportunité professionnelle est vraiment intéressante pour moi, est-ce qu'elle va vraiment me nourrir en tant que multipotentiel ou pas. Et on sait que dans le cas de notre profil, il y a beaucoup de critères qui ne sont malheureusement, entre guillemets, dans notre société, pas importants. Par exemple, tout ce qui va être en relation avec le statut. Est-ce que je vais avoir plus de pouvoir, plus de reconnaissance, etc. C'est pas vraiment des choses qui nous font vibrer. Et donc du coup, bah, toutes les progressions de carrière qui sont tournées vers ça, vers plus monter l'échelle hiérarchique. Hein. Si on est dans une entreprise, en général, on va essayer de nous faire monter parce que plus de pouvoir, parce que plus de salaire, parce que plus de statut. Sauf que pour la plupart d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Le défi peut être intéressant, ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire, mais c'est pas. Il nous manque, enfin, il nous manque, moi je pense pas que ce soit un manque, mais en tout cas, il nous manque ce petit truc qui fait qu'on va se dire, bah ouais, je vais avoir du pouvoir, je vais avoir un statut et ça me suffit. Ça suffit quasiment jamais. Et donc, du coup, on a développé donc ces 6 étapes. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Julien, là-dessus, avant qu'on passe aux six
Non,
étapes.
non, tu as tout dit. Je te couperai au cas où, mais.
Ça marche. Donc, on va les prendre ensuite une par une, mais. Voici un petit peu les 6 étapes par lesquelles on pense de notre côté et sur lesquelles on a fait passer plein de personnes et pour qui ça fonctionne. Ce sont les 6 étapes par lesquelles on va passer avant de se dire on va se lancer dans un projet. Ce sont toutes les questions, toutes les facettes qu'il faut arriver à connaître. Première chose que vous allez voir si vous lisez un petit peu ce qu'il y a, donc bon, je vais les lire pour les personnes qui sont en mouvement ou qui ne peuvent pas être concentrées sur l'écran, mais la première étape sera comprendre ton histoire, d'où tu viens et où tu vas. L'étape numéro 2, identifier ton fonctionnement, comprendre l'histoire intérieure qui se joue en toi au quotidien. 3, définir mes envies, identifier ton environnement, ça va correspondre à identifier ton environnement de travail idéal. Savoir te présenter, comprendre, exprimer ta valeur ajoutée. Organiser, étape 5, ma recherche ou ma prospection. Comment définir une stratégie adaptée à mon projet et à mon profil et à mes envies? Et 6, enfin, comment mettre en place mon plan d'action? D'accord? Donc, chacune de ces étapes, la première chose qu'il faut comprendre, c'est comme je vous disais au début, elle n'a pas de réponse en elle-même. D'accord? Le but de chaque étape, c'est d'aller chercher toutes ces informations qu'on a en nous, pour la plupart, parce qu'on a fait justement tout ce travail avant. Ces questions-là, ces éléments-là, on en a une grosse partie déjà en nous, mais on n'a pas forcément fait de lien entre elles. Ou alors, on n'a pas réussi à les gratter assez d'informations sur chacune de ces expériences. Et pour nous, qu'on pense que quand les personnes ont un profil multipotentiel, on est obligé d'avoir ces 6 facettes qui sont maîtrisées, en tout cas abordées, connues et posées sur le papier, pour se les intégrer vraiment et pouvoir arriver face à une recherche d'emploi et se dire, OK, ça, c'est un projet qui m'intéresse. Ça, sur le papier, ça a l'air sympa, mais en vrai, ça ne va pas correspondre à telle, telle et telle partie ou à telle et telle chose de mon côté. Donc, ce que je vous propose là, c'est qu'on aille explorer ben, étape par étape exactement ce qu'on doit savoir. Dessus, parce que c'est ça, c'est le nombre d'étapes, c'est bien, mais c'est ce qu'on voit à l'intérieur qui est intéressant. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est quand je dis il n'y a pas de réponse universelle, parce que il n'y a pas un seul profil multipotentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. On se retrouvait tous dans le profil multipotentiel au sein de Cameo, par exemple, dans la communauté, dans l'équipe, mais aussi au sein de la communauté plus large. Mais on n'a pas un seul profil qui est identique. Parce que, on en parle souvent, si vous avez déjà vu sur des lives, ce genre de choses, le profil multipotentiel, ce sont des curseurs sur certaines valeurs, besoins, etc., qui sont à des niveaux différents. Et donc, du coup, cette combinaison de curseurs fait qu'on est chacun différent, chacun original. Et donc, du coup, le fait d'aller chercher toutes ces questions va nous permettre de comprendre où sont nos propres curseurs et qui on est en tant que multipotentiel. Et ça, c'est souvent une question qu'on ne s'est pas posée avant. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien, peut-être?
Peut-être rapidement par rapport à ce dont tu parles et ces 6 étapes-là, c'est vrai que généralement on se retrouve souvent avec des personnes, donc quand ils nous exposent justement le fait qu'ils soient bloqués pour choisir un métier ou pour choisir un projet qu'on leur propose ou une opportunité qu'on leur présente, finalement ils se focalisent tout de suite sur le comment. Et comme vous allez voir aujourd'hui par rapport à notre méthode, le comment finalement il coule de source, mais c'est
Bah, c'est
pas
l'étape 6.
c'est l'étape 6 en fait, le
C'est
comment.
pas.
C'est vraiment une grosse erreur qu'on fait un petit peu, qu'on a tous fait. C'est oh, mais je veux faire ça, mais je sais pas comment, je pourrais pas faire, il faut que je reprenne des études, il faut machin, etc. En fait, on saute sur les opportunités, mais sans se demander vraiment, ok, c'est qui je suis et qu'est-ce qui est important pour moi. Ok, vous allez le voir justement dans ces différentes étapes, c'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer et on laissera le comment, on laisse le comment pour la fin. On n'est pas non plus en train de vous dire, voilà, ça c'est ta passion, celui-là. Mais ok, là, tu as identifié quelque chose qui est. Donc, une hypothèse au projet que tu avais, que finalement tu as confirmé, et comment tu fais à la mener à terme.
C'est
Comment
ça.
tu fais à aller au bout, et déjà à définir qu'est-ce qui est... c'est quoi le bout, parce qu'on a eu tellement tendance à croire qu'on a abandonné tout le temps les différents projets, les différents métiers qu'on a fait. Mais finalement, c'est pas souvent, on s'est pas tout simplement demandé, mais c'était quoi la fin d'un projet, c'est quoi la fin
Comme
d'un
mon
métier, qu'est-ce qu'on est
objectif.
venu chercher. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va voir dans ces différentes étapes. Voilà.
C'est vrai que quand on a créé cette présentation, on se disait au final que les. Comme Julien le disait, on se pose souvent la question du comment. Et qu'en fait, si on regarde les 6 étapes ici, si on regarde par exemple un bilan de compétences classique, en général, on va avoir le 3, l'étape 3, définir mes envies éventuellement. On va avoir le 5, le 6, parfois on a un peu de coaching pour savoir se présenter, mais pas plus que ça. Et en fait, on oublie toujours le qui. On oublie toujours qui on est en fait et qu'est-ce qui nourrit les choses. Et on se disait aussi, je ne sais pas si tu te souviens, on se disait, mais il n'y a pas le pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la vidéo de Simon Sinek sur commencer avec le pourquoi, Start with Why, c'est quelque chose qui s'applique. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte, enfin, on s'est rendu compte, non, parce qu'on le sait, mais il n'y a pas de phase pour le pourquoi parce que le pourquoi se travaille tout au long de ces 6 étapes. En fait, à chaque fois, on va venir affiner un petit peu plus le pourquoi on fait les choses au fur et à mesure qu'on se redécouvre. Parce que c'est ça qui est important à voir, c'est que par ces 6 étapes-là, on va se redécouvrir en fait qui on est, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour nous, etc. OK? On passe à la suite. Première étape, donc comprendre ton histoire. Donc là, le but de cette étape, c'est vraiment de reprendre qui on est en tant que personne. Qu'est-ce que ça veut dire qui on est en tant que personne? C'est que on a souvent une vision de soi qui se trouve à l'instant T, qui revient, mais on le sait, notre mémoire, elle fonctionne très très mal. Elle est sélective, elle est teintée par notre vision du monde, par nos expériences, par nos croyances, par tout ça. Et donc du coup, notre cerveau va trier un petit peu ce dont il te souvient et va interpréter ce qui s'est passé des fois de manière pas très sympa pour nous. Et un peu dur, souvent. On dit souvent que ce qu'on se dit à soi-même dans sa tête, on le dirait même pas à son pire ennemi. Donc du coup, l'étape 1 est extrêmement importante. C'est une étape sur laquelle on fait passer beaucoup, beaucoup de temps aux gens parce que c'est vraiment comprendre ses racines, comme le montre l'illustration. Ce sont vraiment les fondations, c'est-à-dire que quand on est multipotentiel, en général, on s'est perdu. Si on arrive ici et on se demande quel métier je vais faire, c'est qu'on s'est perdu. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma reconstruction personnelle et après professionnelle, je ne savais même plus qui j'étais, je ne savais même plus ce que j'aimais. Et quand je voyais une fiche de poste, c'était ben, ça, je peux le faire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et je n'avais jamais la réponse. Parce que je ne savais même plus ce que j'avais envie de faire, tellement j'avais testé de choses différentes. Et tellement j'avais cette impression que tout n'avait été que du négatif. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, dans cette étape, on va essayer d'aller creuser un petit peu dans les racines pour essayer de remettre un petit peu d'objectivité et d'essayer de faire ressortir plein d'éléments qui vont permettre de modifier un petit peu notre vision de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important parce que peut-être que là, on ne sait pas où on veut aller, peut-être que on a l'impression d'être instable, peut-être qu'on a l'impression de ne pas savoir ce qu'on veut, peut-être qu'on nous renvoie cette impression-là à chaque fois. Mais il y a forcément quelque chose. Il y a forcément des moments où on a réussi des choses. Il y a forcément des moments où on s'est senti aligné. Forcément des moments où on était en paix avec soi-même. On se sentait à sa place. On se sentait presque, j'ai envie de dire, puissant parce qu'on était là où il fallait qu'on soit, au moment où il fallait qu'on le soit. Et c'est ces moments-là qu'on a tendance à oublier parce que notre cerveau aime bien se concentrer sur le négatif. C'est ces moments-là qu'on va essayer d'aller faire ressortir pour comprendre ce qui fait notre particularité et comprendre qui on est. Donc, Pour ça, les choses qu'on veut récupérer dans cette étape-là, donc évidemment, on ne pourra pas faire les exercices ce soir parce que c'est un peu compliqué d'aller faire tout ça. Hein. C'est un programme qui se fait sur cette partie-là, se fait sur 3 semaines de manière très intense. Donc, c'est quelque chose de voilà. Mais ce qu'on va aller explorer, ce sont nos choix passés. Pourquoi nos choix passés? Parce que quand on a du mal à choisir, nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent et qu'on a expérimenté aussi, c'est que on se dit qu'on n'est pas capable de faire des choix, des bons choix pour nous. Puisque les souvenirs qu'on a, c'est que tous les choix précédents qu'on a faits n'étaient pas bons, puisque sinon on serait pas obligé de se re-choisir maintenant. C'est logique. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un problème, qu'on ne doit pas savoir faire de choix qui soient positifs pour nous. Donc un des premiers exercices va être d'aller creuser cette croyance qu'on a sur nous, puisque là c'est une croyance. Hein, si vous connaissez ce principe-là de fonctionnement en psychologie, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Donc, on va aller creuser notre manière de faire des choix. On va aller aussi creuser ce que je vous disais tout à l'heure, les réalisations passées, tous ces moments, ce qu'on appelle, nous, les réalisations probantes, même si j'aime pas trop ce terme, mais qu'est-ce qu'on a fait de bien pour nous? Quels étaient ces moments où on se sentait bien, on se sentait fort? Et on va aller les chercher. On va aller en chercher, en chercher, en chercher, en essayant de ressortir à chaque fois le contexte, avec qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel rôle on avait si on était dans un groupe, qu'est-ce qui faisait qu'on se sentait à sa place, qu'on se sentait aligné à ce moment-là. Le fait de cumuler ces réalisations, de cumuler ces choix passés, de cumuler ces réalisations, ça va nous permettre de sortir des choses, de sortir notre zone d'excellence, par exemple. Donc, c'est cette zone dans laquelle, qui ne porte pas forcément de nom, qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément c'est pas forcément une compétence qu'on va trouver dans une fiche de poste, mais ça peut être quelque chose, qui nous est unique à nous en tant que multipotentiel, parce qu'on a tellement naviguer sur des postes différents, sur des expériences différentes, on a développé une compétence qui ne se trouve pas chez les autres. Souvent, ça va être des compétences de transmission, parce que on a tellement soif d'apprendre, on a tellement fait de choses qu'en fait, on devient extrêmement bon à expliquer ce qu'on fait et à transmettre et à partager nos choses. Des fois, ça va être de savoir mettre les bonnes personnes ensemble, de savoir faire ressortir ce qui est bon chez les autres. Donc, en fait, on va aller creuser pour essayer de trouver cette zone d'excellence qui fait votre particularité. En parallèle de ça, une notion qui est hyper importante, moi, je trouve, dans ce qu'on fait et dans tout ce que j'ai pu expérimenter à ce sujet-là, c'est la création d'une équipe. Donc, une équipe, c'est qui? C'est décider, c'est-à-dire, c'est se rendre compte que quand on fait ce genre de voyage, parce que c'est une vraie aventure hein, à la redécouverte de soi-même, c'est extrêmement difficile de le faire tout seul. C'est long. Ça bouscule, on va chercher des choses qui sont difficiles en soi, etc. Et on ne peut pas le faire tout seul. Mais comme on l'a vu avant, il faut faire attention à qui on écoute. Parce que il y a des gens qui peuvent être très très bien intentionnés, mais qui n'auront pas la capacité de nous aider, de nous supporter comme on le sait. Donc construire une équipe, c'est quelque chose qui est important en assignant vraiment des rôles très précis à certaines personnes. Vous allez avoir votre support inconditionnel. La personne, vous savez que quoi que vous lui disiez, elle va être à fond avec vous. Parce que voilà, même si ça va pas, elle va dire tu peux y arriver, etc. Vous allez avoir la personne qui va vous challenger, qui va vous dire ah ouais, mais attends, dans ce truc-là. Mais l'idée de l'équipe qu'on construit, c'est que déjà on sait que la personne est bienveillante, on lui demande de faire ce rôle-là, et surtout, on va aller la chercher quand on a besoin d'être challengé. Je vais aller chercher mon challenger quand je vais commencer à avoir une stratégie, à essayer de mettre en place ma stratégie, et je vais lui expliquer. Et je vais attendre de lui qu'il vienne me challenger sur cette stratégie-là parce que je vais avoir besoin de ça à ce moment-là. Je vais avoir besoin de son regard et de sa capacité critique pour venir m'apporter plus d'informations. Donc, créer son équipe, c'est extrêmement important et ça fait partie des choses qui vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Tout ça pour essayer de trouver son étoile du Nord, comme on disait. Donc, l'étoile du Nord, c'est pas le prochain boulot. C'est pas la prochaine mission, c'est pas le prochain projet. L'étoile du Nord, c'est votre grande orientation dans la vie. Et c'est important de se le remettre parce que si votre grande orientation dans la vie, c'est d'avoir une vie de famille, comment dire, c'est d'avoir une vie de famille concentrée sur la famille, c'est là où vous donnez votre temps, votre énergie, vous voulez être à la campagne, vous voulez être tranquille, etc. Oui, je parle de moi. Vous n'allez pas orienter vos recherches et vos projets de la même manière pour quelqu'un qui a besoin et pour qui son but dans la vie, c'est d'avoir énormément accès à de la culture, de voir toujours des mondes, du monde, de tester plein de choses, qui aime être dans un environnement urbain, etc. Donc du coup, C'est cette espèce d'objectif à extrêmement long terme. C'est même plus un objectif à ce niveau-là. C'est juste qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie. Parce que rien que ça va vous aider à choisir des choses. Okay? Donc ça, c'est cette étape 1. J'ai pris beaucoup de temps dessus. On prendra peut-être un peu moins de temps derrière sur les autres parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire la suite. Je ne sais pas si Julien, tu voulais rajouter des choses.
Oui, ra rapidement, c'est vrai que ben, alors, par zone d'excellence, il y en a qui appellent ça également la zone de génie. Donc ça, c'était
Oui.
une spécificité. Dans la question des choix et des relations passées, vous pouvez trouver, on a sorti deux vidéos sur notre chaîne YouTube très récemment avec des exercices que vous pouvez justement suivre et avec des fichiers que vous pouvez télécharger qui vous aident et que vous pouvez remplir directement pour faire ces exercices. Donc si jamais c'est des choses que vous voulez travailler, surtout n'hésitez pas à vous appuyer sur ce contenu qu'on a mis à votre disposition et puis les explications qu'il y a dans la vidéo pour vous aider à faire ces exercices. Mon étoile du
OK.
Nord, effectivement, c'est des choses, voilà, pour vous donner légèrement plus de contexte. C'est, par exemple, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce qui est important pour vous dans le futur d'apprendre, qu'est-ce que vous avez envie finalement de ressentir émotionnellement, qu'est-ce que vous avez envie de posséder, qu'est-ce que vous avez envie de, voilà, toutes ces questions-là. Et tout ça, c'est pas un objectif en soi, comme tu as dit, c'est vraiment une direction que vous voulez prendre. D'accord? C'est vraiment pour vous donner, mais comme son nom l'indique, une étoile du Nord, une direction.
Une
Voilà.
orientation générale. Mais
Voilà,
ça
une
fait trop
orientation
politique
générale.
quand on dit ça comme ça.
Allez, passons.
Allez, on y va. Étape 2, donc identifier son fonctionnement. Donc là, ça va être une étape sur laquelle on va se poser sur trois éléments principaux. Le premier, ça va être d'identifier son système de croyances, puisque ça, comme on l'a dit, c'est important. Le deuxième, ça va être de détailler ses besoins. Dans ce qu'on appelle les besoins chez Cameo, c'est l'ensemble de nos besoins. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de carrière professionnelle, on va dire oui, tes besoins financiers. Oui, mais pas que. Parce que c'est important, ça doit être traité, on doit savoir comment évaluer une offre de travail, etc., un salaire, savoir si ça va convenir à ce qu'on a besoin et tout. Mais on n'a pas besoin que de ça. Parce que sinon, comme je l'ai dit au début, ben, on monterait dans la hiérarchie, on prendrait n'importe quel poste, du moment qu'on a plus de pouvoir, plus d'argent, ça nous irait très bien, sauf qu'on sait très bien que ça n'est pas notre grille de lecture à nous. Et donc, on va aller chercher l'ensemble des besoins qui sont propres à notre profil à nous. C'est-à-dire que mes besoins à moi ne sont pas les mêmes que Julien. Il y en a certains qui se recoupent, mais pas tous. Et donc, du coup, on ne va pas chercher la même chose dans des jobs, dans des missions. On n'aura pas les mêmes choses qu'on va rechercher. Pourquoi c'est important de les savoir? Parce que ça va être aussi un moyen de détecter pendant des entretiens. Imaginez en fait un entretien où vous imaginez vous vous projetez dans un projet. Est-ce que ce projet-là peut répondre à mes besoins? Si j'ai un gros besoin de sécurité, par exemple, ce qu'on dit souvent, on entend souvent parler de limite du potentiel. Au final, il faut créer son entreprise pour arriver à être ou créer son activité pour y arriver. Pas forcément. Et on a beaucoup de gens qui ne font pas ça, tout simplement parce qu'on a des gens qui ont des besoins de sécurité, par exemple. Auquel l'entrepreneuriat ne répond pas. Et donc, du coup, on coupe comme ça le fait d'analyser ses besoins va nous permettre de cibler des parcours et des options et des idées de projet qui nous sont spécifiques. Donc, on va aller creuser ces choses-là. Les valeurs, pareil, étudier ses valeurs. Alors, ça, c'est souvent un exercice. Je pense que la plupart des gens l'ont fait ici, probablement, identifier ses valeurs. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a remarqué, nous. Les gens sont souvent très alignés déjà, ont déjà une bonne connaissance de leurs valeurs internes, etc. Les faire ressortir, c'est extrêmement important parce que quand on décide d'une mission, quand on décide, si on décide de monter une entreprise et qu'on veut se positionner sur quelque chose, ben, connaître ses valeurs, c'est hyper important pour être sûr qu'on va mener un projet qui nous correspond. Mais c'est exactement pareil quand on va rejoindre une entreprise, quand on va rejoindre une équipe. Est-ce que mes valeurs sont alignées avec celles de l'entreprise ou au moins est-ce qu'elles seront respectées? Et est-ce que je pourrais les faire entendre? Et ça, c'est extrêmement important de les avoir, pareil, pour savoir qui on est. On reste toujours sur ça, qui je suis et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir bah, accepter ou pas quelque chose, en fait. Est-ce que ça me correspond vraiment ou pas? Tu veux rajouter quelque chose, peut-être?
Rapidement, peut-être les besoins que nous, on voit le plus souvent passer chez les profils du potentiel. Il y a le besoin évidemment d'apprentissage, souvent lié aussi au besoin de transmission. Il y en a qui ressentent un fort besoin de mouvement, de rapprochement avec la nature, d'apporter, de remettre du sens, un besoin de justice très, 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 très souvent également. Donc, ça, c'est vrai que c'est des besoins qui nous lient
De
souvent avec un
créativité aussi.
fonctionnement comme ça, de créativité, de proposer des idées, d'autonomie également. Enfin, voilà, il y a des besoins. Mais ce n'est pas parce qu'on a des besoins, comme tu disais, hein, qui sont communs entre nous qu'ils ont ont la même importance et qu'on accorde la même
Exactement.
importance. Et nous, ce qu'on fait faire justement comme travail et que je vous invite à faire également, c'est non seulement à définir ses besoins, mais également à les classer par ordre d'importance.
Exactement. Vous allez voir qu'il y a des besoins ou des valeurs qui sont non négociables. C'est-à-dire qu'il y en a pour vous. Si ces besoins ou ces valeurs sont alors, trahis, mais en tout cas non remplis ou trahis en fonction du besoin de la partie valeur, par un employeur, par une équipe, par etc., ça peut être complètement rédhibitoire. Mais il faut les connaître. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins importants, un petit peu moins cruciaux. Tous les exercices qu'on fait à ce moment-là, en général, sont des exercices. Enfin, c'est quelque chose qu'on conseille de faire régulièrement. C'est-à-dire qu'on le fait une fois, on se pose pour le faire une fois, mais le faire régulièrement permet de se mettre à jour parce que la Lauriane d'aujourd'hui n'est pas la Lauriane d'il y a 3 ans. Et donc, être à jour, se faire une petite mise à jour logicielle de ses besoins et de ses valeurs à un instant T, c'est hyper important, justement parce que ce que je vous disais sur votre cerveau au début, le fait qu'il garde des choses, ben, si je prends des décisions maintenant avec en tête mon échelle de besoins et de valeurs d'il y a 3 ans, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, il va y avoir un truc qui va coincer, et du coup, je ne pourrai pas continuer sur ce projet-là. Et je vais me dire, bah zut, encore un projet que je n'ai pas continué. Ah ben non, en fait. Il était, en fait, si j'avais fait ma mise à jour avant, j'aurais su qu'il n'était pas aligné, j'aurais su que c'était même pas la peine d'y aller ou qu'il aurait fallu changer des paramètres pour pouvoir y mettre. Le système de croyance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à travailler. C'est parce que souvent on le connaît, mais c'est très complexe. Et puis ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Mais c'est l'idée, c'est la manière, c'est le logiciel avec lequel votre cerveau voit le monde et vit les expériences. Et il y a des croyances, c'est quelque chose qu'on voit dedans, mais. Si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, il y a ce qu'on appelle des croyances aidantes. Donc, c'est des croyances qui vont nous faire, qui vont nous permettre de déplacer des montagnes quand on les a, parce qu'elles sont, elles nous portent. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des croyances limitantes. Elles, on en entend souvent beaucoup plus parler, parce que ce sont les croyances, c'est le frein à main qui est tiré quand on essaye d'avancer. C'est tout ce qui nous fait dire, ah ben, ce truc-là, oui, mais. Par exemple, un gros système de croyance qui est entretenu hein, par beaucoup de choses, mais c'est qu'en France, si on n'a pas le bon diplôme, on ne peut pas avoir le poste. Et donc, du coup, là, souvent, la première question qu'on se pose, c'est si je veux faire une réorientation, il faut que j'ai le diplôme. Et donc, du coup, je repars pour faire des études. C'est vrai dans certains cas, on ne va pas se mentir, c'est vrai dans certains cas. Mais si on sait que dans nos besoins, on a besoin de travailler avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit, on a besoin d'agilité, de créativité, etc. A priori, on va partir vers des personnes et des entreprises qui n'ont pas ce système de croyance où il faut le diplôme pour avoir parce qu'on va s'en éloigner, en fait, de suite. Il va y avoir un effet antimagnétique.
Une autre croyance aussi très répandue dans nos communautés, c'est le fait que le travail doit être difficile. Donc, à partir du moment où vous
Oui.
avez des facilités dans certains domaines, c'est pas normal. Donc, il faut
Coupable.
voilà, vous essayez, vous avez le syndrome d'imposteur qui arrive au galop, vous essayez de vous former dans quelque chose dans lequel vous êtes déjà compétent, par exemple, ou voilà, vous ne trouvez pas ça normal que finalement vous comprenez très rapidement et vous pouvez mettre des choses en place rapidement, là où d'autres mettent beaucoup plus de temps à le faire. Donc ça aussi, de bien le comprendre, et de bien comprendre tout ça, finalement, ça va vous servir notamment à l'étape 4 qu'on verra dans quelques minutes, qui est le fait de pouvoir l'exprimer, tout ça. Parce que si vous n'avez pas travaillé ça en amont, comment vous voulez finalement l'exprimer lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une création d'entreprise et de votre communication en tant qu'entrepreneur? Si vous n'avez pas travaillé tout ça, ben c'est que c'est flou pour vous, et ben ça le sera également pour les gens à qui vous adressez. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait.
Étape 3.
On passe à l'étape 3. Oula, on va peut-être devoir accélérer, je pense. On n'est pas en avance là, si on regardait d'ici. Alors, définir mon envie. Là, on va commencer, du coup, quand on arrive à cette étape-là, on va commencer à essayer de projeter un petit peu sur maintenant, je suis. Je suis la moi en 2024. Quelles sont mes envies pour le futur? Donc là, on a passé tout ce qui était notre conception du monde et qui on a été, toute notre construction, et on va arriver à qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, on va parler, vas-y, si tu veux passer la slide, on va définir quelque chose que vous connaissez qui ressemble beaucoup à ce qu'il peut y avoir au niveau de l'ikigai, par exemple. À qui ou à quoi je veux être utile? Quels sont mes désirs? Notamment professionnel, mais pas que, profond. Quels sont mes combats, quelles sont mes aspirations? Tout ça va nous servir à trouver ce qui est moteur chez nous. Ce qui fait que on va être capable de déployer une énergie folle aider quelqu'un, par exemple, une amie qui se lance quelque part, et puis nous, il y a un truc qui nous plaît, et puis on va y passer des heures parce que parce qu'en fait, il y a des choses à l'intérieur qui correspondent et qui sont motrices pour nous. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait avancer au final, et on va essayer en parallèle de définir notre environnement de travail idéal. Donc, qu'est-ce que c'est un environnement de travail idéal? C'est quel rôle je vais avoir? On se souvient que dans les réalisations probantes, on avait vu quels étaient nos rôles. On les fait ressortir, notamment en se disant quel rôle je menais à ce moment-là. Donc, quels sont les rôles qui peuvent correspondre dans une entreprise? Quelles sont les valeurs avec lesquelles je veux travailler? C'est-à-dire que avant, on a travaillé nos valeurs personnelles, celles qui étaient importantes. On va pouvoir travailler quelles sont celles qui sont adaptées à l'environnement de travail. On ne peut pas tout faire, voilà. Quel type d'entreprise et quel type de culture d'entreprise est OK pour moi? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quel degré d'autonomie j'ai besoin d'avoir? Tout le monde n'a pas besoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent le multipotentiel, vous voulez beaucoup d'autonomie. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. On a beaucoup de personnes, bah moi la première, hein, j'ai un TDAH. Une des premières choses qu'on sait sur le TDAH, c'est qu'on a besoin d'avoir des instructions et un cadre très précis, de l'autonomie à l'intérieur, mais le fait de nous laisser en autonomie à 100%, ça peut être dangereux. pas dangereux pour nous, mais dangereux pour les délais et la finalité du projet. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on va pouvoir définir pour essayer de comprendre un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui nous fait avancer et dans quel cadre on a envie d'exprimer et d'apporter ce qui nous fait avancer au niveau professionnel. Donc là, on était pas mal sur le développement, sur des choses qui pouvaient s'approcher du développement personnel. Au final, avant, des grandes questions sur soi, des grandes informations sur soi. Là, on commence à petit à petit à se centrer sur vraiment le futur au niveau de notre travail.
L'environnement de travail, c'est vrai notamment, enfin, aussi bien d'un point de vue salarial que dans un point de vue entrepreneurial, hein. C'est-à-dire que c'est également l'environnement de travail que vous voulez créer, vous l'instaurez. Parce que si finalement, vous ne posez pas ces questions et vous créez votre propre boîte, ça peut devenir une prison, votre propre prison, hein. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à
C'est
avoir
ça.
des clients finalement avec qui vous n'avez pas envie de travailler, mais qui vous apportent de l'argent et finalement, vous pouvez vous mettre dans un piège tout seul. Donc, c'est super important et évidemment de connaître également tous ces critères pour pouvoir bien le mettre en place de votre côté, ou voir un petit peu l'entreprise chez qui vous allez postuler, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils mettent comme action, parce que dans les mots, hein, tout le monde est bienveillant, tout le monde laisse l'autonomie, blablabla, enfin, hein, je ne vous la fais pas, vous connaissez tout ça. Ce qui est important à chaque fois, hein, parce que quand vous lisez LinkedIn, c'est pareil, hein, tout le monde il est bienveillant, tout le monde il réussit, etc. Non, non. Quelles sont les actions derrière que vous mettez en place pour prouver ce que vous amenez comme valeur? Ça, c'est toujours fondamental. Si vous arrivez dans une entreprise, il y a toujours un moment où ils vous demandent des questions. C'est là justement où les valeurs qui sont importantes pour vous, vous pouvez poser des questions. OK, pour moi, c'est important ça. Qu'est-ce que vous mettez finalement en place pour vos employés, pour leur laisser une autonomie, pour etc., etc. Voilà.
Exactement. Tout
Étape
à fait.
4.
Étape 4. Alors, savoir me présenter. Alors, ça paraît un peu brut arriver comme ça, mais si on reprend toutes les étapes qu'on a fait jusqu'à présent, au final, on a réussi à comprendre qui on était, d'où on venait, comment on fonctionnait et où est-ce qu'on voulait aller. On a aussi appris à définir nos ce qui était nos les places qu'on prenait dans les projets, quelles étaient les activités idéales, etc. Donc, on a déjà énormément de choses. Et donc, du coup, on va faire tout un exercice à ce niveau-là pour partir de tout ce qu'on a fait et arriver à se présenter. Je te laisse mettre la slide pour que les gens comprennent. Mais en gros, c'est un peu le processus qui est suivi pendant cette étape-là. On part de la place qu'on prend dans un projet, des activités idéales, de l'exploration de métiers qu'on fait, donc une exploration rapide. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en général, quand on se pose ces questions-là, on a quand même des idées des trucs qu'on a envie de faire. On s'est pas baladé sur LinkedIn en se disant, je sais pas du tout, je sais pas du tout, est-ce que je deviens pâtissier ou est-ce que je vais aller devenir, de, aller, je sais pas, dans la fonction publique ou est-ce que je vais ouvrir une bibliothèque, enfin voilà, tenir une bibliothèque. On a quand même un petit peu, on a des idées, c'est juste qu'on ne sait pas comment les choisir. Et tout au long de ce qu'on a fait, toutes les étapes qu'on a fait avant, et nous c'est marrant, on le voit, là on a une session du parcours en ce moment et on le voit dans les échanges, c'est ah ben j'ai déjà plein d'options qui s'enlèvent naturellement, en fait, parce qu'on se rend compte qu'elles ne correspondent pas à nos valeurs, qu'elles ne correspondent pas à nos besoins, qu'elles ne correspondent pas à ces choses-là. Et donc, du coup, ça fait un tri tout seul, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en se reconnectant avec qui on est, on fait un tri tout seul sur les options qui s'ouvrent à nous, pour arriver à trouver notre fil rouge également. Une fois qu'on a tout ça, on va être capable de comprendre quelle est notre particularité. Donc, notre particularité, notre valeur ajoutée, au final. Alors là, c'est un discours très, très business, très entreprise, etc. Mais ça reste l'objectif, hein, c'est de trouver un nouveau boulot. C'est comment arriver à se vendre. Pas à se vendre seulement grâce à ses compétences, même si c'est important et que c'est attendu, mais ça va être en fait tout le tour, en fait. Qu'est-ce qui va faire que vos compétences à vous, surtout si elles ne sont pas sanctionnées par un diplôme ou quoi, comment est-ce que je vais arriver à les vendre grâce à ce que j'ai déjà fait, grâce à qui je suis et grâce à ce que moi j'imagine du monde. C'est se vendre grâce à ses réalisations, sa personnalité et sa vision. Et c'est l'humain, en fait. On fait ressortir l'humain, on fait ressortir votre profil, votre spécificité pour arriver à définir un pitch final. Donc un pitch final, c'est un terme qui est repris de l'entrepreneuriat, hein, l'elevator pitch, si vous avez déjà entendu parler. C'est comment on présente un projet le temps d'un trajet en ascenseur pour un investisseur ou quelqu'un qui pourrait soutenir ce projet-là. C'est ce que vous voyez dans les émissions où ils cherchent des investisseurs, etc. C'est quelle est la petit discours de 3-4 minutes, même moins, qu'on peut dire sur soi pour intéresser les gens à qui on est et ce qu'on a envie de proposer. Et c'est ça qu'on essaye d'avoir dans cette étape-là, pour pouvoir après aller rencontrer des gens, créer le réseau, on va le voir juste après, et avoir quelque chose à dire sur nous qui soit intéressant, qui nous corresponde et qui permette de voir si ça matche en fait avec quelqu'un.
Et la notion de ville rouge, hyper important et très parlant aussi pour la plupart des multipotentiels, c'est vraiment arriver justement à mettre un lien entre toutes ces activités, tous les domaines différents qu'on a explorés et voir un peu la place qu'on a occupée et qu'est-ce qu'on a apporté à une équipe. Ça, c'est super important parce que
C'est
si
ça.
vous présentez comme ça de but en blanc un parcours dans lequel vous avez changé plusieurs fois, ça peut vraiment faire peur. Mais si finalement vous arrivez justement à mettre ce fil rouge, à parler de ce fil rouge, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus clair pour la personne à qui vous adressez. Et là, il y a vraiment des choses qui se passent et
Une
il y a une
cohérence.
possibilité, voilà, il y a une cohérence. Voilà. Pour vous donner
Là où...
rapidement, par exemple, voilà. Ouais.
Vas-y, pardon, je t'ai
Non, mais
coupé.
moi, au début, quand je regardais mon parcours, je voyais ça m'avait ni queue ni tête. Et en fait, en faisant ces exercices-là, je me suis rendu compte que vraiment, ma force et mon fil rouge, c'était de créer des environnements favorables à l'expression des talents et de la réussite de mes clients, de mes élèves et de mes collaborateurs. C'est ce que je fais tout le temps dans tous les projets, qu'ils soient pro ou extra-pro. Tout le temps, c'est créer des environnements pour l'expression des talents et des potentiels. Je le fais via Cameo, je le fais dans toutes les différentes activités que je fais. Donc pour moi, c'est là où je prends du plaisir et là où j'ai vraiment des fortes compétences.
Exactement. Et c'est vraiment quelque chose quand on le découvre. Alors, on l'a mis là, c'est pas un exercice qui va nous donner le fil rouge, hein. C'est que en général, à ce moment-là, de toutes les étapes qui sont faites, à ce moment-là, on commence à avoir une très bonne idée de son fil rouge. Pareil, c'est quelque chose qui s'affine au fur et à mesure du temps, mais en général, on l'a travaillé depuis le début et ça arrive, on commence à avoir une vraie bonne idée à ce niveau-là. Ce qui est intéressant à ce qui C'est une force, mais je pense même personnellement, quand on commence à comprendre la cohérence qu'il y a dans notre profil, quand on commence à comprendre qu'est-ce qui nous a attirés dans chaque chose, dans chaque expérience qu'on a eue, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris du plaisir parfois et que parfois ça n'est pas été le cas, ça nous donne tellement de force. Ça nous redonne tellement de force parce que souvent, bah, comme je disais, on ne se sent pas très très bien, on ne se sent pas super en confiance. Et découvrir son fil rouge et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas du tout parti dans tous les sens, mais que c'est la même chose qu'on a cherché à chaque fois et c'est juste qu'on a eu un terrain d'exploration extrêmement vaste, ça fait un bien fou. On se sent à nouveau en connexion avec soi et bien dans ses baskets, ça fait vraiment du bien.
C'est
Donc
là en
voilà.
particulier où une équipe peut vraiment aider parce qu'avoir un regard extérieur justement sur tout
Oh
ça
oui.
permet vraiment de clarifier tout ça. Moi, c'est un exercice que j'adore faire, que j'adore accompagner, faciliter parce que j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes et de vraiment d'essayer de voir un petit peu quel est le lien et d'aider la personne à trouver ce lien. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs exercices.
C'est ça.
Allez, étape 5, organiser ma recherche.
Tu veux prendre le relais ou
Comme tu veux.
ouais, comme
Je peux.
non, bah vas-y, allez, vas-y.
Allez,
Tu
c'est
maîtrises mieux
parti.
cette partie-là.
Je pense que tu la maîtrises tout autant que moi. Donc, Là, on est dans l'organisation de sa recherche. Une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'on a commencé à écarter certaines hypothèses de projet, et je le rappelle, ce n'est pas ce qui manque, hein, en ayant un profil multipotentiel, une idée à la seconde, ce n'est pas ce qui manque, les hypothèses de projet, les idées de projet. Le tout, c'est justement d'avoir cette méthode pour filtrer tout ça et garder celles qui ont une probabilité élevée, finalement, de nous, dans lesquelles on peut se sentir épanouir dans la durée. Donc là, une fois qu'on a identifié tout ça, c'est de partir, d'organiser sa recherche. Et par organiser sa recherche, on entend souvent le fait de construire son réseau, de construire et d'entretenir son réseau. Souvent, là, les gens bloquent sur le fait de construire son réseau, ils ont l'impression que c'est le plus difficile à faire. Souvent, quand on nous demande, c'est « ouais, mais je ne sais pas comment aller vers cette personne, etc. » Et une fois qu'on a la méthode, finalement, on comprend comment aller vers les autres et comment faire le lien et comment être accepté dans leur réseau et créer des relations saines, vraiment je crée une relation saine donnant-donnant. Finalement, on se rend compte que le plus compliqué, entre guillemets, ça va être de l'entretenir, ce réseau. Ça va être de penser aux gens de son réseau, ça va être de les aider, ça va être de faire le lien. Mais bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on fait très facilement en tant que multipotentiel. On arrive à faire les liens entre les domaines, entre les gens. Donc, c'est vraiment génial. Utilisons cette compétence finalement pour créer et entretenir notre réseau en connectant les gens entre eux et en faisant en sorte que ça donne bien que ça mène à des beaux projets et que finalement on arrive eh bien, à avoir ces relations saines avec lesquelles il peut y avoir mais tiens, j'ai pensé à toi et puis je pense à voilà. Donc, tout ça dans le but, eh bien, de préparer son projet et de voir aussi, de rentrer en contact avec des experts, des gens peut-être qui ont déjà des positions qu'on pense qui peuvent être intéressantes, pour pouvoir, eh bien, commencer une enquête métier. Et par enquête métier, évidemment, hein, ça parle de soi, c'est-à-dire, OK, j'ai dans l'idée de faire votre métier, de faire certaines missions que vous faites aujourd'hui, j'aimerais savoir concrètement. Comment ça se traduit quotidiennement dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites comme tâche? Est-ce que vous en êtes content? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire vraiment pour éviter finalement de toujours eh bien, devoir faire les choses pour pouvoir découvrir ces solutions? Il y a des gens qui font déjà ça et qui sont pas à avoir en conseil. Moi, je rencontre énormément d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès et une des choses qu'ils me disent régulièrement, c'est qu'ils acceptent beaucoup de gens qui les contactent pour pouvoir eh bien, les suivre le temps d'une journée, le temps d'une semaine dans leur métier et de donner les informations pour pouvoir faire gagner du temps à ces personnes-là. C'est vraiment des gens qui comprennent et qui ont envie aussi de rendre ce qu'on leur a donné lorsqu'ils se sont lancés. Lauriane, tu voulais ajouter quelque chose peut-être?
Oui, je voulais dire, souvent on a peur de déranger les gens, mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens n'aiment pas être dérangés pour rien, mais s'ils savent qu'ils peuvent vous apporter quelque chose et qu'en plus en faisant ça, ils parlent d'eux et de leur histoire, en général, c'est extrêmement facile d'obtenir ce genre de rendez-vous parce que les gens adorent parler d'eux et adorent pouvoir aider. Si vous l'avez, enfin, je sais pas à vous, hein, mais moi, c'est ce que je vois, j'adore pouvoir aider les gens. Parler de moi, ben, c'est ce que je connais le mieux, en fait, c'est le sujet que je connais le mieux, donc si je peux le partager, ben ouais, et au final, si vous lisez Le Quartier Libre, c'est ce que je fais toutes les semaines, je parle de moi, entre autres, et donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a la partie surmonter ces blocages, parce qu'on a beaucoup de, on se dit beaucoup de fois, cette personne l'a occupée, je vais la déranger pour rien, et je suis pas sûre que ça. Il y a des moyens pour le faire, il y a des méthodes pour le faire, pour être sûr que c'est efficace, qu'effectivement vous n'allez pas lui faire perdre son temps, mais aussi il y a des choses sur la psychologie à comprendre sur le fait que si une personne peut vous aider, en général, elle va le faire.
On l'a vérifié encore hier hein, avec un expert dans un des domaines sur lequel on est en train de travailler pour Cameo. J'ai contacté un expert sur LinkedIn, quelqu'un qui a une énorme visibilité, et qui a l'habitude de, enfin, qui donne énormément de valeur et de contenu. Et je lui ai posé quelques questions. Il a la gentillesse de me répondre. Voilà, c'était nous, ça nous a fait gagner énormément de temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, la plupart du temps, enfin, c'est très 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 rare que les gens n'aient pas envie d'aider. Voilà. Donc voilà, le but, ça va être de travailler son réseau pour pouvoir organiser sa recherche, organiser sa prospection, voir un petit peu à qui on peut s'adresser, commencer à faire des enquêtes métiers ou des enquêtes de projet pour voir si jamais ce qu'on a envie de proposer va répondre à une problématique et on va apporter une solution à une problématique du marché pour être sûr que finalement, on ne se lance pas dans un projet qui ne rencontre pas d'audience. Voilà. Et puis une fois qu'on a tout ça, on termine par la sixième et dernière étape, qui est le fait de mettre un système d'organisation en place. Voilà. C'est fondamental. À quoi sert un système? Ça peut faire peur finalement quand on entend ça. Moi, quand je parle d'organisation, et Lauriane a fait toute une conférence sur la thématique de l'organisation que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube aussi hein, en intégralité. Et elle était passionnante cette conférence et tout le monde l'a adorée. Donc voilà, merci, merci Lauriane. Mais voilà, ça fait un petit peu peur de mettre des systèmes parce qu'on a l'impression qu'on se construit une prison dans laquelle on ne peut plus sortir. Non, ce n'est pas du tout ça en fait. Quand vous construisez un système d'organisation, déjà que vous le vouliez ou non, déjà je veux casser une croyance, on a tous des routines. Le fait de ne pas avoir de routine, c'est que vous en avez une en fait. Donc on a tous une
Tu
routine.
me piques ma
C'est con. Hein.
conférence.
Donc,
C'est voilà.
on a tous un système d'organisation, mais il faut que votre système d'organisation en fait vous permette de retrouver en fait un système d'organisation va vous permettre d'être constant dans vos efforts et dans votre avancée vers votre objectif. Parce que vous vouliez ou non, vous allez tous perdre équilibre à un moment donné. Vous allez avoir une baisse d'énergie, il va vous arriver des trucs dans la vie. Voilà, on connaît tous ça. Hein. Les gens qui essaient de vous faire croire le contraire, comme quoi ils n'ont que des réussites, c'est ce qu'on appelle du bullshitting, c'est n'importe quoi. On a tous des hauts et des bas. Et en fait, ce système d'organisation est là pour vous faire retrouver votre équilibre lorsque, enfin, plus rapidement, parce que vous allez le perdre, mais vous allez le retrouver plus rapidement grâce à votre système d'organisation. Il est là juste pour ça. Et pour pouvoir aussi faire des points réguliers par rapport à ce que vous allez mettre en place. Nous, par exemple, le système d'organisation qu'on décrit chez Cameo, c'est un système d'organisation. Donc, on a évidemment des objectifs à long terme, à moyen terme. Et puis, après, on va les décomposer, nos objectifs en court terme. Généralement, on va se placer dans des durées de 90 jours pour pouvoir faire des hypothèses qui vont nous rapprocher des objectifs à plus long terme, et puis faire le point tous les 3 mois pour voir si jamais on se rapproche ou pas, si on doit continuer vers ces actions ou si on doit arrêter. Donc ce système d'organisation va vous aider justement à définir ces étapes, à définir les priorités et à mettre les bons outils en place. Parce que là aussi, pareil, hein, je pense que vous êtes comme moi, la course à l'outil parfait, c'est sans fin chez nous. Hein. Dès qu'on nous parle d'un nouvel outil, dès qu'on voit, tiens, on parle de Trello, tiens, on parle de Notion, tiens, on parle de tel outil, de to-do list, etc., on est toujours là à vouloir tester, tester, tester pour trouver l'outil
C'est
parfait.
horrible.
Or, c'est pas du tout ça, en fait.
C'est horrible.
C'est pas comme ça, c'est pas l'outil qui doit nous définir le système d'organisation, c'est l'outil qui doit finalement s'adapter à nos objectifs et à qu'est-ce qu'on et à notre fonctionnement.
C'est ça.
Et
Et
voilà.
j'aurais même tendance à dire, ce qu'on travaille dans cette partie-là, c'est vraiment quelque chose qui peut. Alors évidemment, on va vous présenter des outils à ce moment-là parce que c'est ce qu'on connaît, etc. Mais l'idée, c'est que. Techniquement, c'est plus, encore une fois, c'est une méthode d'organisation et de plan d'action qui peut se faire presque, je veux dire, vous pouvez le faire avec des post-it chez vous, en fait, hein, sur un mur, si vous avez envie de refaire la déco d'une pièce. Vous pouvez prendre des post-it de couleur et le faire. C'est juste que ben, nous, on le fait sur des ordinateurs. Mais l'idée, en fait, c'est encore une fois, c'est comment, qu'est-ce que c'est, comment je fais pour me définir un objectif, qu'est-ce que j'en attends, comment je vais faire, quelles vont être mes étapes pour le passer, etc. Alors, je ne dis pas que vous serez un pro en organisation, en plan d'action à la fin de cette étape-là, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais chez moi, c'est compliqué. Même quand je connais toute la théorie, etc., ça reste compliqué. Donc, je pense qu'on apprend toujours et je pense que, bah, voilà, on est multipotentiel. Syndrome de l'objet brillant, on connaît. Il y a plein de trucs qui ont l'air trop bien, etc. Et voilà. Mais au moins, le fait de savoir ce qu'on attend et comment les choses sont censées fonctionner, ça aide quand même beaucoup à rester, à reprendre, comme on disait. Hein. L'idée, c'est pas de se dire qu'on va s'enfermer dans un truc on va pas s'enfermer sur des rails, mais on va avoir plutôt. Vous savez, c'est comme les rails qui se lèvent dans les trucs de bowling pour les enfants, pour éviter que ça parte dans la gouttière. Ça se lève. Bon, bah, ça permet. Voilà, on peut naviguer au milieu, mais ça nous permet d'aller quand même vers là où on a besoin d'aller. Et l'idée, c'est d'avoir ça. C'est pas d'avoir un train sur des rails qui file tout droit et qui peut pas aller ailleurs, mais c'est d'avoir un cadre qui fait que normalement, par la force des choses, on va finir par arriver jusqu'au bout et peut-être à faire tomber des quilles. Ça fait.
Parce
Mais voilà.
que quand tu as un projet, les possibilités sont infinies en fait. Sur le papier, tu as l'impression que toutes les stratégies sont bonnes. En fait, toutes les tactiques que tu as envie de mettre en place sont bonnes. Si tu
Tout à
as un
fait.
business, tu as l'impression qu'il faut faire du référencement, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, en même temps, il faut faire du réseautage, en même temps, il faut faire de la création de contenu, des articles, voilà. On a l'impression qu'il faut tout faire. Or, en fait, il y a vraiment. L'important, c'est de se définir un système de priorité. Ce qui vraiment fait la différence entre les entrepreneurs, mais de manière générale, tout le monde, en fait, pas que les entrepreneurs, mais c'est finalement cette capacité à nous focaliser sur les actions qui ont le plus de retour sur investissement, qui ont le plus de chances de réussite. Et justement, dresser un plan d'action comme ça et avoir un système va nous permettre de définir déjà quelles sont ces actions qui ont le plus de chances de nous rapprocher de nos objectifs, et puis de faire un point régulier pour pouvoir être agile quand même hein, et changer de cap si finalement ben, les hypothèses n'étaient pas bonnes. Donc,
Tout
ça
à
nous
fait.
permet de mettre des choses en place et de faire un point régulièrement. Voilà. Et puis, eh bien, on est arrivé à la dernière étape. Et
Ouais,
comme vous l'avez vu,
c'est
c'est quand même dense, hein. Il y a plein de choses à voir, énormément de choses à voir.
énormément de choses à voir. Donc là, ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était vraiment que vous ayez en tête toutes ces étapes et toutes ces questions. Donc, comme on l'a dit, il y a des ressources, il y a certaines choses qu'on a déjà pu sortir pour répondre à certains points. Il y a d'autres choses qui sont en préparation. On peut pas, comme on l'a dit, on peut pas tout sortir d'un coup. On est une petite équipe, donc c'est compliqué de tout sortir. Mais on voulait vraiment vous partager une méthode qui fonctionne, qui a fonctionné pour nous. Alors nous, on l'a créée de briques et de brocs en l'expérimentant nous-mêmes chacun de notre côté. On l'a ensuite formalisée et organisée pour que elle puisse être suivie par d'autres. C'est ce qu'on appelle le parcours. On a eu plus de 50 personnes qui l'ont déjà suivie et qui ont suivi cette méthode. L'idée, c'est que, comme on l'a dit, hein, c'est trouver ces choses-là, même une fois qu'on sait qu'il faut les trouver, et une fois qu'on vous avez cette liste-là, vous pouvez aller chercher les exercices qui correspondent à droite, à gauche, dans les différentes choses que vous allez trouver. Nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment créer un espace qui permette de passer par les différentes étapes de cette période dans un temps donné, au lieu de passer des années comme nous, que les gens puissent faire ça dans un temps beaucoup plus court et beaucoup plus concentré, et surtout en éliminant toutes les choses qui ne fonctionnent pas, puisque bah, on a déjà parlé des bilans de compétences normaux, etc. Tout ce que nous, on a fait, qui ont un peu été des errances, on les a enlevés, on a pris ce qui nous intéressait et on a enlevé ce qui n'y était pas. Et donc du coup, ce programme s'appelle le parcours. Ce sont ces étapes, c'est-à-dire que ce que vous avez vu ce soir, c'est littéralement le programme du parcours. C'est ce qu'on voit étape par étape, à la fois par de l'auto-coaching, à la fois par des séances de coaching personnel pour venir lever tout ce qui est croyance, tout ce qui est trouver son fil rouge, etc. Et aussi des séances de groupe, puisque une des grosses, grosses forces du parcours, c'est
Le co-développement, l'intelligence
le
collective.
co-développement, voilà ce qu'on appelle le
Ouais.
co-développement, qui est un gros mot, c'est pas un mot
Ouais.
joli,
C'est vrai.
il n'est pas beau, mais c'est un principe qui fait que quand vous faites le parcours, vous n'êtes pas seul, en fait. Donc on a parlé au début de l'équipe qu'on se crée autour de soi, etc. Mais la plupart des gens, la plupart d'entre nous, quand on est multipotentiel et qu'on se relance dans ces recherches-là, on a l'impression d'être très très seul. On a l'impression d'être les seuls à fonctionner comme ça. On a l'impression d'être les seuls à avoir vécu ces moments difficiles, ces moments de doute, ces moments où on se dit mais c'est pas possible, je rentre pas dans les cases. Et pourquoi toutes les cases elles sont comme ça alors que je suis jamais rentrée dedans? Et pourquoi moi j'arrive pas à rester dans un job ou à en tout cas y rester, à être intéressée par ce job plus de 6 mois, 1 an, 18 mois en fonction de la chance qu'on a. Pourquoi j'ai l'impression d'enchaîner ces cycles de passion puis d'ennui et de m'ennuyer, de m'ennuyer, de m'ennuyer. Pourquoi ça me suffit pas juste de recevoir mon salaire à la fin du mois et de continuer comme ça, etc. Pourquoi j'y arrive pas? Et on se sent très très seul parce que on se rend bien compte que autour de nous les réactions être bah, t'as un boulot, sois content, ou bah, c'est bon, t'as un salaire, mais il y a pire que toi dans la vie, bah, le boulot, c'est pas fait pour s'amuser. Enfin, bref, toutes ces réflexions-là, on s'est prises, on n'ose plus parler. Et le fait de créer une synergie comme ça, un groupe au sein du parcours, ça permet de guérir tellement de blessures juste par le partage, juste par l'avancement, de ne pas être seul, parce que c'est un travail qui est lourd à faire. On va creuser énormément de choses parce que chacun des points que vous avez vus ce soir, chacune des étapes, sont vraiment explorés en détail et en profondeur pour être sûr d'avoir des réponses solides. Et le soutien du groupe est extraordinaire. Je pense que c'est une des choses les plus fortes du parcours. Sincèrement, le fait d'avoir, comme vous disiez, il y a une session qui est en cours là. Ils se font des cafés toutes les semaines ensemble pour discuter, faire les points d'avancement. Ils ont leur mastermind le lundi pour définir leurs objectifs de la semaine, pour faire voir quelles missions ils vont faire. Les gamestorming sont extraordinaires aussi. C'est des sessions de coaching en groupe où en fait tout le groupe, on va utiliser l'intelligence collective et toutes les idées de tout le monde dans le groupe pour arriver à faire avancer le projet de chacun. Ce sont des choses qui sont très très fortes et donc voilà, on voulait vous en parler puisque on est en période d'inscription en ce moment pour la session 8 qui va être la dernière session qui va démarrer avant l'été. Donc, qui va être, qui va démarrer bah, très très rapidement, hein, fin mars. Julien, si tu veux prendre, si tu as des choses à rajouter, je
Oui,
sais plus.
mais juste pour vous dire, bon, voilà, on vous a donné pas mal d'étapes, pas mal d'exercices. Regardez un peu les ressources aussi et on vous enverra d'ailleurs par email
Demain,
les
oui.
ressources dont on vous parlait demain. Si vous ressentez le besoin, voilà, d'être accompagné, d'avoir un groupe de personnes qui se posent des questions identiques aux vôtres, avec des challenges voilà, très proches des vôtres, effectivement, le parcours peut être la bonne solution. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, réservez rapidement finalement un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse avoir un échange pour voir si jamais il y a vraiment une collaboration, parce que c'est rien d'autre que ça. C'est une collaboration. On ne fait pas les choses à votre place. Vous ne
Non.
faites pas les choses tout seul. C'est vraiment une collaboration. Et voir si finalement, nous, le but, c'est d'avoir un groupe avec vraiment une bonne synergie de personnes qui veulent avancer et veulent trouver ces réponses-là. C'est pour ça qu'on limite également, parce qu'il y a beaucoup d'investissements de notre côté, on limite les sessions du parcours. Elles sont limitées en nombre. Et vous avez au
Et en
maximum des
place.
groupes, voilà. Et en place, on a maximum 9 personnes. Là, ça a commencé évidemment déjà à se remplir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez sur la page du parcours, cameo.fr/parcours. Prenez rendez-vous avec Aurore au moins. Hein, vous aurez Aurore au moins. Et puis, on parlera pendant une bonne heure hein, de votre parcours, de vos objectifs, de qu'est-ce que vous cherchez à atteindre. On vous en dira un peu plus sur le parcours si jamais bien, finalement c'est quelque chose que vous voulez savoir. Et puis on verra si jamais il y a une relation de travail qui est possible ou pas. Voilà, tout simplement.
Tout à fait. Du coup, est-ce qu'il y a des... Alors, c'est un peu tard. On a déjà dépassé un petit peu. Donc, si jamais il y a des gens qui avaient des engagements, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de souci. On va passer à une partie un peu questions-réponses si vous le souhaitez. Tous ceux qui... Je voulais juste vous remercier. De votre participation et de nous avoir écoutés toute cette heure. Ça fait très plaisir de pouvoir partager ça. On espère très, très sincèrement que ça vous a permis d'avoir des choses concrètes. C'était vraiment important pour nous que vous puissiez repartir avec des choses que vous allez pouvoir actionner derrière. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les étapes et tout ce qu'on cherche à chaque fois. Et l'idée, c'est que, bah, évidemment, ça nous ferait plaisir que vous rejoigniez le parcours. On ne va pas se mentir. Mais le fait d'avoir toutes ces étapes et toutes ces informations, on espère que ben, même si ça prend plus de temps et même si voilà, il y a des vous préférez partir sur le faire de votre côté, que vous sachiez ce qu'il faut avoir et faire pour avoir un fonctionnement qui fonctionne pour vous et de futurs projets qui vous correspondent vraiment, avec lesquels vous êtes à l'aise et qui vous parlent tout simplement. Parce qu'on le mérite, mince.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un dernier mot avant de vous quitter. Nous allons prochainement démarrer une nouvelle session de notre parcours d'accompagnement et les dernières places sont disponibles. Alors si vous souhaitez en savoir plus et prendre un premier rendez-vous gratuit avec nous pour faire le point, n'attendez pas et rendez-vous sur cameo.fr/parcours et parcours, ça s'écrit avec un K. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.